والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, on va essayer de reprendre un petit peu où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. Je vous rappelle qu'on avait commencé un chapitre concernant la situation des musulmans pécheurs le jour de Qiyamah, lorsque chaque musulman aura à répondre de ses péchés auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour résumer, on avait vu entre autres que chaque catégorie de pécheurs aura une situation différente le jour de Qiyamah, bien sûr en fonction de deux choses: en fonction des devoirs qu'il aura délaissés, première chose, et deuxième chose, en fonction des péchés qu'il aura commis. C'est sûr qu'une personne qui accomplissait beaucoup de péchés, une personne qui accomplissait des guna kabira, aura plus de comptes à rendre qu'une personne qui accomplissait des péchés, ce qu'on appelle mineurs. Quoique on ne peut pas appeler ces péchés mineurs, chaque péché a son importance, a sa gravité. Mais celui qui accomplit un guna kabira aura une situation plus difficile que celui qui accomplit un péché moins grave. De même que la personne qui accomplissait plusieurs guna kabira aura plus de comptes à rendre que celui qui en accomplissait qu'un seul. Ça, c'est concernant les péchés, les erreurs. Maintenant, concernant les manquements, si une personne n'était pas assidue à sa salat, une personne n'était pas assidue à une autre obligation, par exemple, le droit, le respect des parents, le droit du voisin. Il y a qu'en fonction des obligations qui ont été délaissées, la situation sera également différente du jour de Qiyamah. Donc, chaque personne aura un traitement, on pourrait utiliser ce terme en guillemets, aura une situation qui sera adaptée à la manière que la personne a vécu de ce dunya, en fonction des obligations, des devoirs envers Allah qu'il les a commis, qu'il les a accomplis ou pas accomplis, et en fonction des péchés qu'il se devait de rester éloigné, de s'en abstenir, s'il a pu faire sabar ou il a fait moins preuve de patience face à ses péchés. Et on a vu également, pour résumer, que comme dans ce dunya, lorsqu'Allah Ta'ala décrit trois catégories de péchés, trois catégories de personnes qui ont la foi, ظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُقْتَصِدْ إِسَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, trois catégories de mu'mines. Il y a le musulman, trois catégories de musulmans plutôt, celui qui se fait du tort à lui-même, c'est-à-dire en accomplissant des péchés. Deuxième catégorie, le muqtasid, celui qui faisait des péchés, mais qui en même temps faisait de bonnes actions. Il faisait des péchés, mais il demandait tawbah, il faisait des bonnes actions. Et puis il y a sabiqum bil khayrat bi idhnillah, celui qui, alhamdulillah, allahumma ja'alna minhum, celui qui faisait énormément de bonnes actions, les wajibat, les sunan, les mustahabbat, et qui en même temps restait éloigné du haram, des makrou, et même ce qui était mashkouk, même ce qui était douteux. Ça, c'est extrêmement important, mes chers frères. Ça, c'est une preuve de la crainte d'Allah, une preuve de taqwa, qu'une personne arrive à se passer de quelque chose qui est douteux. Quand, à propos d'une chose, on ne sait pas si c'est jaïz, c'est pas jaïz, mais que la personne se dit que tant que ce n'est pas quelque chose d'indispensable, et qu'il y a un risque que cette chose provoque la colère d'Allah, alors il est mieux que je délaisse cette chose. Mais ça, peu de gens sont arrivés à ce niveau. Le hadith passant me dit « Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk » délaisse ce qui est douteux au profit de ce qui est sûr. Vous allez dans un restaurant, vous ne savez pas est-ce que cette personne sait du poulet qui est halal, qui n'est pas halal, il y a un doute. Tandis qu'à côté, vous avez un musulman, quelqu'un qui fait salat avec vous, vous savez que ce qu'il vend, c'est halal. Peut-être qu'il est moins bon cuisinier que l'autre, mais en tout cas, on sait d'où provient son poulet, son bœuf, etc., etc. L'autre, c'est douteux. Il y a des gens qui disent, bah, bref. Ou alors, vous allez dans un magasin, vous voyez un produit, il y a un produit qui est certifié halal. Il y a un autre, c'est juste écrit halal, H-A-L-A-L, bah, sans qu'il y ait de traçabilité, sans qu'il y ait d'organisme, sans qu'il y ait de mosquée, d'association musulmane, dès qu'il y a ce label. Mais ce musulman-là qui va dire que bon, ben ça c'est écrit halal, mais ce n'est que de l'impression ça. Je peux écrire halal moi, je peux écrire haram aussi. Je peux écrire Jannat aussi, moi. C'est une étiquette et mettre sur un aliment et vendre. Et la personne va dire, je mange, je vais dans le Jannat. C'est-à-dire, yani, le terme halal, ce n'est pas un terme réglementé. N'importe qui peut imprimer sur son ordinateur des étiquettes halal et coller sur tout. Il y a une personne qui m'a dit que dans certains pays, il a même vu sur des bouteilles d'eau, étiquette halal. Enfin, quoi, il a coupé l'eau, l'eau a été coupée avec, je ne sais pas moi, il faut m'expliquer, qu'il y a un moulissable, elle y a dedans, la crache dedans. Vous voyez que le terme, le mot halal, hein, on finit un peu par jouer avec cela. Donc, je suis musulman, je vois qu'il y a des caisses de poulet. On sort du sujet là, mais comme on a parlé de la crainte d'Allah, il y a des caisses de poulet qui coûtent 2 euros le kilo. Aucune traçabilité. Et de l'autre côté, vous avez du halal sans poisson, qui coûte 3,50 euros. Et mes chers frères, pour 1,50 euros, vous êtes persuadé que dans votre vente, Inch'Allah, c'est de la nourriture halal qui rentre. Vous allez donner à vos enfants du halal. Vos doigts seront acceptés, Inch'Allah, par Allah Ta'ala. Et vous n'êtes pas en train de consommer quelque chose qui va être un obstacle entre vous et l'acceptation de vos doigts. Donc, allez, on va trop s'éloigner. Donc, cette catégorie de personnes sabiqun bil khayrat et bidnillah. Donc, 3 catégories. Je reprends celui qui se fait du tort en faisant beaucoup de péchés, en faisant des choses qui sont même makrouh et qui délaissent les obligations. 1. L'autre catégorie, wasat, juste milieu. Il fait de bonnes choses, mais il fait des petites erreurs aussi. Et sabiqun bil khayrat, celui qui est dans le droit chemin, vraiment, alhamdulillah, je dirais presque irréprochable. Mais tout comme il y a 3 catégories de Ahlul Iman sur ce dunya, le jour de la résurrection, comprenons bien qu'il y aura des catégories yani, identiques en termes de classification parmi les gens le jour de la résurrection. Comprenons bien que nous ne pouvons pas espérer, enfin Inch'Allah, sauf par la grâce d'Allah, ne croyons pas qu'avec nos actions, nous méritons d'être ressuscités parmi les sahaba, les tabi'in, les atba'i tabi'in. Je me vois mal moi-même être ressuscité à côté d'Abu Hanifa, à côté d'Imam Malik, à côté d'Imam Shafi'i. Ça, c'est difficile. Vu le niveau de ilm, de din, de taqwa, de crainte d'Allah, ya Allah, et notre niveau. Hada. Également, pour résumer ce qu'on avait vu, que parmi les premiers critères qui seront tenus compte le jour de la résurrection concernant les obligations, c'est la salat. Et ça, on avait vu il y a peut-être 1 mois ou 2 mois. La première chose qui sera examinée dans les comptes d'une personne, ce sera la salat. La dernière fois, on avait expliqué comment il était important pour un papa et une maman d'habituer ses enfants à faire la salat à la maison, avant que cet enfant ne soit baligh. Si c'est un garçon qu'on l'amène à la masjid, si c'est une fille que la maman essaie de donner cette bonne habitude à cette personne, de faire la salat avec elle. Amenez la chaise, moi, s'il vous plaît. La chaise, exactement. Et on avait vu que la salat, c'est le seul ibadat pour lequel il n'y a strictement aucune excuse. Une personne n'a pas les moyens, ne fera pas le hajj. Une personne n'est pas en bonne santé, ne jeûnera pas, mais il donnera à manger aux pauvres à la place. Une personne est en voyage, excusez-moi, c'est pas, j'ai des petits soucis de santé. Allah yashfi. Une personne, non, ça va aller. Une personne, qu'est-ce qu'on disait? Une personne, oui, est en voyage, elle devra accomplir la salat. Une personne est malade, elle ne peut pas faire la salat debout, elle fera assise, etc., etc. Même en période de conflit, il y a un cas de figure où si une personne est attaquée, elle est dans une situation de conflit avec une armée, arrivée lors de la salat, l'obligation reste. Mais il y a une méthode, il y a une manière spécifique de pratiquer la salat dans ce genre de choses. Bref, c'est le seul ibadat qui ne peut pas être remplacé. C'est le seul ibadat pour lequel il n'y a strictement aucune excuse. Et on avait vu ce hadith très connu que la première chose qui sera examinée dans le livre de compte de la personne le jour de Qiyamah, c'est la salat. Si la salat était correcte, cette personne sera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Inch'Allah, tout le reste, faqad aflaha wa anjah. Cette personne, elle a déjà la bonne nouvelle qu'elle a réussi. Wa in fasadat. Tandis que si lors de l'examen de la salat, déjà il y a des manquements, alors c'est le début de la chute. C'est le début de la chute, c'est une chute annoncée pour cette personne. Ça c'est concernant la salat, on ne va pas faire long parce que
c'est un rappel de ce qu'on avait déjà dit il y a deux séances. On avait vu également, si je ne me trompe pas, que la zakat également, du manière générale, les piliers d'islam sont les premières choses qui sont examinées dans les livrets de compte. Et on avait vu que la plupart du temps, lorsque la salat, pas la plupart du temps, dans quasiment tous les ayats où Allah Azzawajal parle de la salat, il y a la zakat qui vient avec. Wa aqimu salata wa atu zakat. Lorsqu'Allah Ta'ala ordonne d'accomplir la salat, il y a toujours l'ordre de la zakat qui vient avec. Et on avait vu qu'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, dans des moments de trouble, il a été jusqu'à combattre ces tribus bédouines qui osaient dire que la zakat n'est plus obligatoire, que nous ne payons plus la zakat. Tellement il donnait de l'importance. Aucun musulman n'est en droit de délaisser ou de décréter qu'un des piliers de l'islam n'est pas obligatoire ou n'est pas important. Hada. Et ce qu'on avait vu également, c'est que la punition concernant l'abandon de la zakat, elle commencera dès les premiers moments du ihtidar, au moment de l'agonie. La personne ressentira les péchés, ressentira les conséquences de l'abandon de la zakat. Également dans sa tombe et également dans les différentes étapes de l'au-delà. Et principalement au moment du hisab, au moment des comptes. Le hadith Qasam dit, hadith d'Ali, إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسِعُ فُقَرَائِهِمْ. Dans ce hadith, le prophète a.s. explique qu'Allah Ta'ala a ordonné qu'une partie de la richesse des gens aisés soit remise aux pauvres. Et là, nous voyons l'organisation sociale qu'il y a de l'islam. L'attention n'est pas portée uniquement sur le culte, sur l'ibadat, le lien entre le serviteur et Allah, mais également sur la construction de la société. Et ça, nous ne trouvons dans aucune philosophie, dans aucune politique, aucun mouvement politique, dans aucune autre religion où il y a autant d'importance qui est donnée sur le lien social, la relation qu'il y a entre les gens. Et la zakat, l'objectif, c'est quoi? C'est que les gens qui ont les moyens aident les personnes qui sont démunies dans le même endroit. C'est pour ça que les ulama disent l'idéal, c'est que la zakat soit distribuée aux gens de la même ville, même village, même région. Maintenant, s'il n'y a pas de pauvres de cette région, on peut envoyer à l'étranger. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un équilibre dans la société. Qu'il y ait un ciment dans la société, qu'il n'y ait pas de scission, de fracture entre les personnes démunies et les personnes qui sont aisées. Et on ne va pas revenir là-dessus, on avait cité deux versets du Coran et certains hadiths dans lesquels le prophète expliquait quels seront les péchés, quels seront les punitions pour la personne qui n'a pas donné la zakat dans ce dunya. Maintenant, voilà, on s'était arrêté à là, c'est pour ne pas perdre le fil. Il me semble qu'on n'avait pas commencé à aborder l'abandon du saum. Je l'avais dit la dernière fois qu'on avait fait, mais en vérifiant dans les notes, je vois qu'on n'avait pas fait ça. Wallahu a'lam, sauf si quelqu'un s'en souvient. L'abandon du saum, c'est-à-dire l'abandon du jeûne du Ramadan. Et le cher frère, l'auteur du livre, c'est quelqu'un qui parle d'une manière très sincère, mais c'est là qu'on voit le décalage qu'il y a entre la sincérité et la réalité des choses. Il dit que d'une manière générale, on verra ça après, il dit que d'une manière générale, une personne qui abandonne le Ramadan, c'est une personne qui à l'origine abandonne déjà la salat. Parce que c'est vrai que le dernier rempart, la plupart du temps, reste le jeûne du Ramadan. Même le musulman qui ne vient pas à la salat régulièrement à la masjid ou qui ne fait pas régulièrement ses prières, lorsque le mois de Ramadan arrive, cette personne prend conscience qu'elle est musulmane et d'une manière générale, le musulman jeûne de Ramadan. Et très souvent, même, je ne dis pas les non-musulmans, mais on a souvent entendu des cas dans les conversions, alhamdulillah, des personnes qui disent que, comment ils se sont convertis, et que la première chose, c'est qu'ils ont essayé de jeûner. Quand ils voyaient les musulmans jeûner durant le mois de Ramadan, eux aussi ils jeûnaient. Et c'est souvent ceux qui, dans certains cas, ceux qui touchent réellement le cœur de ceux qui n'ont pas la foi. Ils voient qu'il y a comme une retraite spirituelle à travers le jeûne, et ils commencent par jeûner, sans être musulmans, sans avoir la shahada de leur cœur, et après, ils trouvent cette lumière qu'il y a dans le jeûne, et leur cœur s'attache à la foi, au iman, et puis ces personnes viennent vous voir, et ils disent que voilà, j'ai jeûné le Ramadan comme vous, maintenant je veux lire le shahada, je veux devenir musulman comme vous. Ça, Wallahu alam, on a vu beaucoup de cas comme ça. Et dernièrement, il y avait une émission, c'était quand, c'est la semaine dernière, sur un musulman de France, à toutes les époques, depuis les premières immigrations de nos frères musulmans d'Afrique du Nord qui se sont installés en métropole. J'ai suivi le documentaire et il y avait un reportage, c'était beaucoup de reportages, hein, il y avait quelque chose qui m'avait choqué. Dans ces premières générations de musulmans qui se sont installés en métropole, on ne généralise pas, mais la personne qui a été interviewée, cette personne, on lui demandait, ben, vous êtes dans un pays français, je ne sais pas si on avait dit là, est-ce que ce terme existait il y a 60 ans, Allahu alam. On lui avait demandé, ben, est-ce que vous pratiquez la religion? Il dit, non, moi je ne pratique pas. Il dit, ben, là c'est le ramadan, est-ce que vous jeûnez? Il dit, non, je ne jeûne pas. Et vos enfants? Il dit, non, ils ne jeûnent pas eux non plus. Il dit, ben, un jour, est-ce que vous allez enseigner à vos enfants le ramadan? Il dit, ben, c'est eux qui vont décider, s'ils veulent le faire, oui, mais moi je ne vois pas la nécessité. Moi, ça c'était des images, une interview qui m'avait choqué. C'était pas une émission, c'était pas une télé-réalité, ça. Hein. C'est pas des idiots qui vont faire les stars dans une ferme. Ça, c'était vraiment des gens qu'on a interviewés, des gens qui venaient d'arriver en métropole. Je me suis posé la question, jusqu'à où un musulman est prêt à aller pour s'intégrer dans une société? Jusqu'à où un musulman est prêt à aller pour gagner un peu d'argent? Et jusqu'à où un musulman est prêt à aller pour avoir une reconnaissance de la société? Si on est prêt à délaisser notre iman, si on est prêt à délaisser les choses qui font partie intégrale, ce qu'on appelle les arcanes de l'islam, les piliers de l'islam, par souci d'intégration, ou parce qu'on se dit qu'on est dans un pays où il n'y a pas de pratique de l'islam, donc je ne vais pas jeûner, alors que le jeûne, c'est le ibadat le plus personnel. Ça c'est entre moi et Allah. Peut-être que je suis en train de jeûner que vous ne savez pas, sauf qu'il est un peu tard, m'oblige iftar. Il est possible que quelqu'un jeûne, quelqu'un vous côtoie, vous ne savez même pas qu'il est en train de jeûner. C'est pour ça que c'est le ibadah dans lequel il y a le plus de sincérité, d'ikhlas. Le musulman entre l'être humain et Allah, bas, personne ne sait. Mais malgré ça, cette personne, yani avec un excès de volonté de s'intégrer, de se fondre dans la masse, de rejoindre les mœurs, les habitudes locales, d'accord? Personne n'est prêt à délaisser le jeûne alors que cela n'a strictement aucune conséquence sur son intégration à la société. On se dit que vraiment, quand Shaitan essaie de nous avoir par les biens, par l'honneur et par ce genre de message, Allah Musta'an, les dégâts qu'il peut causer, c'est énorme. Et moi je crains si une personne est prête à délaisser le Ramadan, le jeûne, par rapport à l'image que les gens vont faire de lui dans la société, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre au moment de mourir? Si je ne fais pas la salat, parce que mes collègues vont dire que ah, c'est un intégriste, il prie. Ou alors, s'il a la fête de fin d'année, si on travaille dans une entreprise, je ne sais pas, quel que soit l'endroit, à la fin d'année, le 31 décembre, champagne, on tire le champagne, je suis musulman, qu'est-ce que je fais? Mes collègues et tout, c'est juste pour paraître comme tout le monde, pour ne pas se démarquer, mais je vais boire. Hein, au moins, personne ne va dire que ah, lui, il est différent. Mais qu'est-ce qu'on attend au moment du ihtidar? Au moment où Malik al-Maut va reprendre notre rouh, est-ce qu'on peut s'attendre à des miracles? Vraiment, si c'est par Allah qui a raham, qui a pitié pour nous, Wallahu alam. Donc, pour revenir à l'abandon du jeûne, cette personne, la personne qui déjà délaisse le jeûne, il a délaissé une action extrêmement importante qui est rétribuée par Allah. Car Allah a dit « wa ana ajzibi ». C'est moi qui en rétribue. On ne va pas s'attarder parce qu'on n'est pas dans le contexte. Donc, on n'a pas trop envie d'écouter sur le jeûne. On n'est pas dans le mois de Ramadan. Et on n'a pas la motivation aussi de parler du Ramadan. Mais il faut qu'on brasse les cinq piliers. Et cette personne, elle se prive bêtement, gratuitement, l'accès au paradis par la porte la plus accessible, la plus facile, qui est Ar-Rayyan. Cette porte qui est réservée aux jeûneurs. Tout le monde jeûne. Mais la personne qui délaisse le jeûne, elle se prive de la porte la plus accessible pour les musulmans, pour accéder au paradis. Et maintenant, il faut savoir également que même sur le plan médical, les médecins, ils ont vu quelle est l'importance de l'abstinence de nourriture pendant une demi-journée, voire un peu plus, une fois de temps, de manière périodique. Cela permet à l'estomac de se reposer. Et certes, les médecins sont unanimes là-dessus. Dernièrement, je discutais avec un spécialiste musulman, me disait que certains collègues n'étaient pas d'accord, certains collègues médecins ne le rejoignaient pas sur le fait de délaisser l'eau. Il disait que ne pas manger, oui, mais ne pas boire une journée, c'est néfaste pour l'organisme. Ce médecin qui est spécialiste, donc qui connaît vraiment son métier, m'a expliqué que, vous savez que le corps humain est composé majoritairement d'eau. Il disait que lorsque vous jeûnez, vous ne buvez pas d'eau, donc votre corps élimine de l'eau qui est cumulée, qui est stockée dans votre corps. Il a dit que parfois vous êtes en train d'éliminer de l'eau qui a constitué votre corps depuis 10 ans, 15 ans. Et cette eau-là, cette vieille eau-là, est en train d'éliminer. Et quand vous allez boire le soir, vous allez donc changer un petit peu. C'est comme si une voiture, vous essayez le liquide de refroidissement, l'huile, depuis des années, c'est pas bon. Et là, vous êtes en train de changer, vous mettez un liquide nouveau. Donc, ce que peut-être les généralistes n'ont pas compris, un spécialiste, lui, il a su expliquer que lorsque la personne jeûne, son corps élimine l'eau, même si vous ne buvez pas. Mais quelle eau il va puiser dans les stocks, les vieux stocks de 10 ans, qui ne sont pas bons, qui sont néfastes à un moment donné, et ces vieux stocks d'eau seront remplacés par de l'eau neuve, hein, fraîche, que la personne va voir au moment des frappes. Donc, de toute façon, nous, là, en tant que musulmans, vous n'avez pas besoin de savoir que jeûner était bon pour la santé pour le mettre en pratique. Du moins qu'Allah nous l'a demandé dans le Coran, le Prophète sallam nous a expliqué quelles sont les vertus du jeûne, que les médecins le découvrent ou ne les découvrent pas, ou que les médecins disent que c'est mauvais. Nous, on a la conviction que ça, c'est quelque chose de profitable, sachant qu'Allah Ta'ala l'a ordonné non seulement aux musulmans, mais à toutes les communautés avant. Puis il y a un point également, il faut bien, concernant le jeûne, c'est vrai, il ne connaît pas le contexte, mais concernant it'am ou ta'am, les gens qui sont malades, parfois qui donnent à manger aux pauvres, hein, ça il faut bien demander aussi ça. C'est pas n'importe quelle personne qui n'est pas trop bien, il a faiblesse, qui va donner, non. Il faut bien demander avec les mouftis, est-ce que dans mon cas, je peux donner à manger un pauvre et ne pas jeûner? Est-ce que, dans quel cas, je dois également faire le kaza par la suite? Tout ça, il faut bien demander. Et maintenant, le cas d'une personne âgée, une personne qui a 80 ans, 90 ans, ou qu'Allah nous protège, une personne est atteinte de problèmes de santé assez graves, lourdes, comme quelqu'un qui doit faire des dialyses ou d'autres problèmes de ce genre, et que la personne, durant sa jeunesse, faisait le Ramadan, normalement. Alors, sachez, mes chers frères, qu'une personne qui, dans sa jeunesse, ou quand elle était en bonne santé, faisait des ibadat, lorsqu'arrivait un âge ou un moment de sa vie, il y a une telle difficulté que la personne ne peut plus accomplir ses ibadat, Allah Ta'ala est tellement clément qu'Allah Ta'ala va le récompenser par rapport à son niyat, son intention. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette maladie, ou s'il n'y avait pas la vieillesse, s'il n'y avait pas telle contrainte, la personne aurait quand même jeûné. Donc Allah Ta'ala rétribue la personne qui est dans la difficulté de la même manière que si elle avait accompli l'action comme elle le faisait quand elle était en pleine possession de sa santé ou alors quand elle avait tous ses moyens. Ah ben. Et dernier point, parce qu'on devait parler de l'intérêt là, gros morceau, mais on va pas faire long ce soir, Inch'Allah. Dernier point pour ce soir, l'abandon du pèlerinage. Ça aussi, mes chers frères, dans le Coran, lorsqu'Allah Ta'ala dit « Walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila » lorsqu'Allah Ta'ala rappelle, il ordonne aux musulmans hein, que chaque musulman se doit de faire le pèlerinage pour ceux qui peuvent, qui ont les moyens bien sûr. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala y rajoute à la fin? وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala n'a pas dit que celui qui ne le fait pas, la mise en garde n'est pas pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Allah Ta'ala n'a pas dit celui qui ne le fait pas, mais Allah Ta'ala a utilisé le terme وَمَنْ كَفَرَ pour la personne qui ne fait pas le hajj, celui qui ne croit pas. Évidemment, ils déduisent que abandonner sans raison, abandonner yani de manière volontaire un des piliers de l'islam, ça peut amener au kufr, à la perte de la foi. Et où il y a unanimité, c'est l'abandon total de la salah, c'est kufr. Les sahaba disent qu'il n'y avait pas une action qu'on voyait comme étant synonyme de kufr comme l'abandon de la salah. Maintenant, le hajj, alhamdulillah, nous avons beaucoup d'organisations, il y a des facilités, que ce soit pour le hajj ou pour l'umra. Mais ce qui est important, c'est qu'une personne qui va pour le pèlerinage, par exemple, le voyage ne doit pas être un voyage touristique. Alors que malheureusement, de nos jours, et principalement pour l'umra, parce qu'il y avait des gens qui nous ont dit, voyage, il y en a qui vont ce soir, demain, Allah facilite. Il y a beaucoup de gens qui viennent demander conseil, nasihat, on va faire umra, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais ces gens-là, d'une manière générale, là, ils connaissent les maslahs. On ne va pas les apprendre à faire tawaf, c'est dans quel sens? Si ce n'est pas comme ça, c'est comme ça de toute façon. Ils vont bien voir. Tawaf, c'est cette tour, le Safa Marwa, vous ne pouvez pas vous tromper. Bref, les a'mal du umra, les gens, ils le savent. Mais très souvent, les gens, lorsqu'ils vont faire umra, c'est une safe Umrah et puis nous ça, un petit peu Bindaoud, ça fait les souks, ça achète des choses. C'est vraiment un voyage, c'est presque touristique, malheureusement. C'est pour ça que ce genre de voyage, mais il est mieux d'aller là-bas que d'aller ailleurs. Ça, il n'y a pas le moindre doute. Mais ce qui est extrêmement important et particulièrement de le Hajj, c'est qu'il y ait un encadrement religieux. Qu'il y ait un encadrement religieux. Que la personne qui vient pour faire le Hajj ou pour faire l'Umrah, principalement pour le Hajj, si cette personne est venue pour le Hajj accomplir un de ses piliers, un des piliers de sa religion, comment est-ce que je peux construire un pilier et abandonner la construction? C'est comme si je construis une maison. Je veux venir un entrepreneur ou un architecte. Je dis, bon, construis-moi un pilier, mais très costaud, très solide. Et puis, je me suffis de ça. Je ne fais pas le toit, je ne fais pas le nivellement de terrain, je ne fais pas les termes techniques. Je ne fais rien d'autre, pas de mur, pas de bâti, rien, je fais juste un pilier. Mais j'ai fait quoi, là? Pareil, quelqu'un qui a fait le hajj, il est en train de construire un pilier d'islam. C'est vrai, c'est une obligation. Mais si avec ça, il ne fait pas sa salat, si avec ça, son shahada, le shahada n'est pas entré dans son cœur réellement, c'est comme si la personne construit un pilier, mais il oublie la construction d'une manière générale. Il faut que la personne qui va faire le hajj comprend le symbolisme de ces endroits. Ça, c'est extrêmement important. Et que la personne comprenne également que si j'ai fait ce sacrifice financier et le sacrifice dans mon temps pour remplir un devoir qu'Allah m'a demandé une seule fois dans ma vie, comment est-ce que je peux maintenant délibérément délaisser un devoir qu'Allah me demande de faire tous les jours, 5 fois par jour? Il faut être cohérent. Nous, on aime bien être logique, être cohérent. Mais si je suis assez cohérent pour comprendre qu'un devoir qui est obligatoire une fois dans la vie, je ne peux pas l'abandonner, comment puis-je abandonner un devoir qui est obligatoire tous les jours et même 5 fois par jour? Ce genre de message, on doit faire passer ça avec les pèlerins, les gens qu'on accompagne durant le pèlerinage. Parce que sinon, les gens, ils peuvent juste se focaliser pendant ces actions qu'ils vont accomplir sans comprendre l'essence. Il y a une personne qui me demandait quelle fait nasihat. J'expliquais à cette personne hier matin que beaucoup de gens, lorsqu'ils font l'Umrah, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils atterrissent à Jeddah, ils vont à Mecca, ils sont fatigués là, ils ont fait une réunion, Maurice, Dubaï, Jeddah, ils sont épuisés. Ils arrivent à Mecca, ils vont faire tout de suite Umrah. Tout de suite. Il arrive le tel post-valise, il fait vos ouïes, ça va faire Umrah tout de suite. Moi, je dis à ces personnes-là, vous venez de faire un jour et demi de voyage. Vous êtes fatigué. Est-ce que vous vous sentez capable d'aller faire tawaf, sa'i, avec concentration? Parce que physiquement, on peut. On n'est pas physiquement, alhamdulillah, ça va. Mais est-ce que vous allez faire ce ibadat avec dévotion et concentration? C'est ça le plus important. Quand le musulman, il fait le tawaf autour de la Kaaba, il comprend ce qu'il est en train de faire. Quand il fait le sa'i de Safa Marwa, il comprend quel est le symbolisme de cette action. Quelle est la récompense qu'Allah me donne à travers ce ibadat? Et donc, quand on est fatigué, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâclent, ils font vite. Safa Marwa, là, ils font une vitesse phénoménale. Et puis, ils disent que ouais, Safa Marwa m'a plié en 40, Umrah m'a fait en 40 minutes. Fièrement. Et quoi, c'était un marathon? C'est pas inscrit aux disciplines de jeux olympiques, ça, de faire Umrah en 20, 30, 45 minutes. Ce n'est pas un motif de fierté que d'avoir fait le Safa Marwa en 10 minutes. Ça, c'est, il n'y a strictement aucun intérêt. Alors que le prophète avait l'habitude, quand il monte sur le mont Safa, il faisait les doigts suivants. Hein, il disait Allahu Akbar, il disait le 4e kalima, La ilaha illallah wahda, anjaza wa'ada, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisin lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. En face de la Kaaba, il faisait doigts. Il répétait 3 fois. C'est-à-dire que ça prenait du temps. À chaque fois qu'il montait sur un des deux monts, Safa et Marwa, il faisait ses doigts. De nos jours, qu'est-ce qu'on voit? On observe les gens, ils montent sur le mont Safa, Allahu Akbar, khalas, tac. Il est reparti pour le tour, pressé de finir pour se couper les cheveux, pour sortir d'état des haram. C'est ça le problème, mes chers frères. Nous n'arrivons pas à comprendre l'essence des ibadat parce que nous ne les accomplissons pas avec la dévotion qu'il faut. Et puis le hajj. À l'époque, je crois que à l'époque de Mecca, c'était un moment extrêmement important pour la da'wah. Je crois que allait voir les qabaïl, les tribus arabes, pour les inviter vers l'islam. Et si on analyse un peu toutes les tendances, même du côté de ceux qui sont dans le mouvement de Tablir, on voit les gens, ils vont faire Jaoula, ils vont propager. Si on regarde même d'autres tendances, ceux qui sont plus axés sur le rim, la science religieuse, par exemple, moi je connais les mashaïr de Makkah, de Madina, des ulamas de l'Arabie, lorsqu'ils vont faire le hajj également, ben, croyez pas qu'ils sont comme nous, hein, allongés, carottés, dans la tente du matin jusqu'à l'heure pour l'étape shaitan. Non! avec notre frigidaire qui est en face, on va prendre un jus, on va manger un café et tout. Non, ça c'est quoi ce hajj là? Ça c'est du camping ça. Matin, après-midi, il y a durous. Il y a des programmes, on enseigne les masa'il sur le hajj, on rappelle, on lit les fatwas qu'il y a sur le hajj. On parle de aqidah, de tafsir, de hadith, c'est-à-dire, c'est un moment où on est fardhi, on est libre. On est là, et c'est le moment de faire le plein sur le plan spirituel. Donc, le hajj et tout, oui, mais il faut qu'il y ait un encadrement religieux avec cela. Et les mises en garde pour l'abandon du hajj, parce que c'est vraiment le sujet. Dans certaines sources, il est même dit que la personne qui avait la possibilité, mais qui n'accomplit pas le hajj, dans certaines sources, il dit, il y a un mout, Yahoudien ou Nasranien, que cette personne meurt maintenant sur telle religion ou telle religion. Qu'on comprenne, qu'Allah nous protège, qu'on comprenne bien. Et Wallahu Musta'an, ne croyez pas que ça n'existe pas. Wallahi, on connaît des gens qui ont les moyens. Ils ont la santé, ils ont tout. Ils ont le temps. Ils peuvent se libérer. Ils peuvent prendre un congé, c'est possible. Mais ils ne font pas ce fiqab, ne se font pas le fiqab, prennent pas l'importance du hajj. Et donc, ils vont pas accomplir le hajj. Et des années passent. Ces gens-là, ils n'ont strictement aucune excuse auprès d'Allah. Si Allah Ta'ala décide de reprendre leur ruh, leur âme, et que la personne meurt sans avoir accompli le hajj faraz, alors qu'elle avait les moyens, c'est extrêmement grave, mes chers. Extrêmement grave. Plus choquant encore, moi je connais des cas, on n'est pas là pour critiquer les gens, mais c'est des cas de la vie réelle. Des gens qui, arrivés des vacances, ils vont en France. Ils vont faire du ski. Ils vont faire, je ne sais quoi, ils vont au Disney, ils vont, je ne sais où, ils vont en Malaisie. Ils vont, je ne sais pas où, et ils n'ont jamais fait le hajj. Subhanallah. Ils mettent 2000, 3000, 4000 euros dans des voyages qui n'ont. Ce n'est pas haram, hein, mais le devoir avant tout, c'est de faire le hajj. Mais ces gens-là, ils n'ont aucune excuse auprès d'Allah Azza wa. Ils avaient le temps, ils avaient les moyens, ils n'ont pas accompli leur devoir. Ça, mes chers frères, c'est extrêmement grave. Et dans, on va terminer avec ça. Dans certaines sources, ce hadith, il est dit que Inna abdan, hein, ça c'est un hadith Qudsi, rapporté par l'imam al-Tabarani, que ce musulman qui est en bonne santé et qui a les moyens, ثم لم يفد إلي بعد أربعة أعوام لمحروم, et qui, au bout de 4 ans, ne va pas rendre visite à la maison d'Allah, c'est une personne qui est mahroum, qui est privée. C'est, je ne dis pas c'est catastrophique, mais c'est une perte énorme pour ce musulman qui a les moyens et qui, au moins tous les 4 ans, ne se rend pas une fois à la maison d'Allah pour le hajj ou alors pour le umrah. Comme on avait déjà dit dans d'autres programmes, chaque musulman doit avoir un attachement spécial pour les lieux saints. Il n'est pas concevable qu'une personne puisse vivre comme ça, sans penser, vous avez dit que j'exagère, hein, sans penser au moins une fois par jour à la Kaaba. Moi je ne conçois pas qu'au moins une fois par jour on ne pense pas à la Kaaba. Quand on fait salat, c'est bien où? C'est à la Kaaba. Ça c'est le cœur de l'islam ça. Le mu'min, son cœur doit être attaché. C'est pas la tour Eiffel, c'est pas les Champs-Élysées, c'est pas le Stade de France, c'est pas tout ça, ou la Statue de Liberté, tout ça c'est beau ça. On peut contempler, on peut regarder, il n'y a pas de mal. Mais le cœur du musulman doit être attaché avec ses masha'ir, avec ses symboles qui sont très forts. Alors mes chers frères, nous avons vu brièvement, je sais que ce n'est pas les sujets les plus croustillants. En général on aime ce qui est croustillant. Mais là, c'est un petit peu les sujets un peu plus classiques. Mais avant de parler des péchés, bittafasil en détail, il faut parler de l'abandon des piliers de l'islam. L'abandon de la salat, si on avait bien développé, bidnillah, on a bien compris. L'abandon du jeûne, c'est un phénomène rare. Alhamdulillah. L'abandon de la zakat, c'est un phénomène également rare. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des cas, Allahu a'lam, mais il y en a. Allahu musta'an. Mais vous savez, 2,5% de la richesse, c'est quoi? C'est rien du tout. Par rapport à ce qu'on paye aux impôts, parfois, une personne qui a les moyens a 40% de sa fortune qui va pour les impôts. Ça veut dire que c'est 2,5%. Cela, c'est, ça nettoie sa fortune des impuretés et cela, ibnillah, amènera la baraka dans ses biens. L'abandon du hajj, c'est un phénomène également marginal. C'est extrêmement rare, mais il faut le souligner. Ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie, on le dit, quoi qu'on comprenne bien que ces choses-là, ça construit notre iman, notre islam, pas notre iman, ça construit notre islam. C'est les piliers qui construisent notre islam. Ça, c'est les premières choses, c'est les obligations, les devoirs du musulman vers Allah. Alors, ce que je vous propose, la prochaine fois, des sujets beaucoup plus problématiques, la consommation d'intérêt, akil riba, quelles seront les conséquences pour la personne qui consomme de l'intérêt le jour du Qiyamah. Qu'est-ce que cette personne verra comme conséquence le jour de la résurrection? Et mes chers frères, nous vivons dans une société, malheureusement, qui pousse à la consommation. Vous avez les moyens, vous consommez. Vous n'avez pas les moyens, consommez quand même. On vous fait crédit. On vous propose telle voiture, vous êtes attiré par cette voiture, mais vous n'avez pas d'argent. Ce n'est pas grave, prenez maintenant, vous paierez en janvier, vous payez dans 6 mois. Il y a même certaines compagnies, on avait vu pendant les fêtes de Noël l'année dernière, vous prenez la voiture, vous payez dans 3 mois, et la compagnie vous donne un chèque de 2000 euros, c'était avant Noël. Formidable ça. Vous prenez une voiture, j'ai dit, neuve, zéro, compteur zéro, vous allez payer dans 3 mois vous commencez à payer, et entre temps la compagnie vous donne un chèque de 2000 euros. C'est-à-dire vous achetez votre dinde, votre canard, votre pintade, votre langouste, votre sapin, et tout ce que vous voulez pour Noël. Mais, subhanallah, je ne parle pas des musulmans, alhamdoulilah, on ne rentre pas dedans, mais n'importe quel être humain qui est attiré par les belles choses, il se laisse tenter. Et regardez ce qui se passe en Amérique. Pourtant, c'est un pays qui, apparemment, hein, c'est l'exemple, hein, je ne sais pas, hein, c'est ce qu'ils disent à la télé, hein, c'est un exemple de civilisation. Regardez le nombre de personnes qui avaient fait des crédits sur 20 ans pour acheter des maisons et qui, au bout de, je ne sais pas, 5, 6 ou 7 ans, depuis 2 ans, là, avec la crise économique, ils ne peuvent plus payer. Ils ne peuvent plus payer leur maison et l'huissier vient, il met le papa, la maman, grand-mère, grand-père, les enfants, tout dehors. Moi, je croyais que c'était le pays des droits de l'homme, moi. Moi, j'étais persuadé que c'était le pays des droits de l'homme. Mais dans le pays des droits de l'homme, on met tout le monde dehors. Les enfants, tout dehors. Parce que vous n'avez pas pu payer. Ou alors votre banque a fait faillite, je ne sais pas, ce n'était pas les problèmes exactement. C'est des gens qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. C'est ça le gros problème, mes chers frères. Parce qu'il y a des palliatifs à l'intérêt. Il y a des commissions de nos joueurs qui existent, avec des financements qui sont licites. Mais c'est peut-être des financements qui sont difficiles à mettre en place, ça prend du temps. Mais ça existe, dans certains pays, c'est plus avancé que d'autres. Mais avant d'aller aussi loin, que chaque musulmans comprennent qu'il faut vivre en fonction de ses moyens. Si j'ai 2000 euros de salaire par mois, je ne vais pas acheter une BMX 6. Moi, j'aimerais avoir une BMX 6. C'est interdit de voler, donc je ne peux pas voler. Et avec un salaire moyen, on ne peut pas acheter. Ben donc, je vais acheter une voiture en fonction de mes moyens. Maintenant, quelqu'un qui gagne 5000 euros, il ne va pas acheter une Aston Martin qui coûte 200 000 euros, parce qu'il faudra mettre de l'intérêt, il faudra emprunter. Chacun doit vivre en fonction des moyens. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous achetez un salon qui coûte 300-400 euros. Pourquoi vous voulez absolument acheter le salon en ubuc, en cuir de je ne sais pas quels animaux, qui coûte 3 000-4 000 euros, un crédit sur 2 ans et demi? C'est inutile. Donc, si chacun y comprenait qu'on vit en fonction de nos moyens et qu'on évite de s'endetter, parce que cumuler les dettes, c'est un péché également. Et qu'on ne sait pas si on va rembourser lui ou non, ben donc on éviterait de tomber dans ce problème d'intérêt et puis ensuite aller chercher des solutions. J'ai fait qu'à la tâne d'un tawfiq, parce qu'on est tombé avec l'appel, alhamdoulilah, baraka, qu'à la tâne d'un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de faire amal, et qu'Allah nous protège. Ça paraît, comme c'est des sujets qui ne nous concernent pas. On ne peut même pas envisager, imaginer qu'un musulman puisse abandonner le pays de l'islam. Mais mes chers frères, quand nous voyons jusqu'où les gens ils peuvent partir, comment les gens peuvent s'éloigner, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Allahu a'lam. Là, je viens d'entendre, je ne vais pas citer le cas de crainte que la personne écoute, je viens d'entendre le cas d'un ami qui vient de tomber dans un péché grave. Là, avant ça, c'était l'Aïcha. Ça m'a choqué. Je suis resté là comme ça, allongé à réfléchir. Mais comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un de correct, de bien, qui venait Bayan et tout, il habite pas Saint-Denis. On va pas citer c'est quel péché. Mais vous savez, mes chers frères, quand Shaitan tourne la tête de quelqu'un, avec les femmes, avec l'argent. Ça, c'est les deux sources d'égarement. Les femmes, les shahwat de Al-Jins, les shahwat du mal, de l'argent. Quand Shaitan, il arrive à faire sombrer quelqu'un par ses waswasa, ça, c'est la pire des choses. Qu'Allah nous protège, mes chers frères, qu'Allah protège notre iman. Protège l'iman de nos enfants, que nous puissions transmettre l'iman à nos enfants, que même un jour, ils deviennent de bons musulmans, de bons mu'mines, qu'ils soient la fraîcheur de nos yeux, que ce soit des enfants qui un jour viendront sur notre tombe, faire doua, et qu'on bénéficiera des